Bonjour. Nous sommes ici pour une table ronde sur la cyberpsychologie. Il faudra d'abord expliquer ce que c'est. Et peut-être je vais le faire. L'idée de la table ronde est la suivante. Et si nous remplaçions nos psychiatres par des machines? Oui, c'est une manière un peu provocante de le dire, bien entendu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais comment est-ce que les machines peuvent nous aider dans le soin des troubles mentaux, la compréhension de l'esprit humain? Et pour discuter de ce sujet... C'est bon, je peux continuer? Ok. Pour discuter de ce sujet, nous avons donc 5 personnes. Comme d'habitude, un mix d'artistes, d'écrivains et de spécialistes de différentes disciplines. Alors, on va faire dans l'ordre où vous les voyez. Rachel Baucher est psychiatre. Elle dirige un service au CHU de Nantes. Et elle, en particulier, si je me souviens bien, elle s'est occupée de prise en charge des adolescents suicidaires, mais beaucoup d'autres choses aussi. Et les Nantais savent peut-être qu'elle est membre du conseil municipal de la ville de Nantes, donc c'est quelqu'un qui a aussi un engagement, disons, dans la société en général. Anne Lecky, vous l'avez sans doute déjà vue dans d'autres tables rondes si vous êtes ici depuis plusieurs jours, auteure américaine de science-fiction. Son premier roman, paru en 2013, La justice de l'ancillaire, a réuni un peu tous les grands prix du domaine et a fait donc beaucoup de bruit. C'était le début d'une trilogie dite de l'Empire Ratch, que je vous conseille fortement et que vous avez peut-être lu pour beaucoup d'entre vous. Olivier Gechter est un auteur, est un ingénieur et auteur français de science-fiction et de fantastique. Comme il le dit lui-même, il y a du steampunk, il y a du fantastico rigolo, il y a beaucoup de choses. Et parmi ses œuvres, on va citer la plus récente, deux des plus récentes, Le Baron Noir aux éditions Céléphaïs et Évariste aux éditions Nemos. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alexei Greenbaum est au départ physicien en physique quantique. Il a fait ses études à Saint-Pétersbourg et à Paris. Et depuis une dizaine d'années, il s'intéresse aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies et à des questions, je dirais, de philosophie qui mêlent la philosophie et la physique, comme dans son dernier livre paru en 2014, je crois, La mécanique des étreintes. Enfin, Milad Dwehi, c'est quelqu'un de pluridisciplinaire aussi. C'est quelqu'un qui, au départ, est un historien des religions, qui a longtemps travaillé aux États-Unis et qui, à l'heure actuelle, travaille à Paris comme titulaire de la chaire d'humanisme numérique à la Sorbonne. Sa bibliographie est abondante, mais on va citer, par exemple, « Pour un humanisme numérique » et « Qu'est-ce que le numérique ?» Voilà. Donc... maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet, hein. Je voulais demander donc à Rachel Baucher, qui est une praticienne, une psychiatre, quels sont les outils informatiques qu'on utilise tant pour le diagnostic que le traitement et pour le suivi des patients à l'heure actuelle et dans un futur immédiat dans notre monde.
Bien, merci de me donner la parole dans la Cité des Congrès que je connais bien. Puisque c'est moi la présidente de la cité. Alors, je vous parle en tant que psychiatre, je veux dire innover dans le cadre des traitements psychiques est plus que jamais nécessaire en psychiatrie pour deux ou trois bonnes raisons que je vais vous dire. La première, c'est qu'en fait, il y a pas mal de pathologies résistantes, des dépressions qui résistent, plus de 30%, des schizophrénies qui résistent. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de révolution concernant la pharmacologie, la pharmacothérapie. Et donc, il faut développer des nouvelles techniques dans le cadre des approches non médicamenteuses. Et la troisième bonne raison, c'est qu'il y a, vous le savez probablement, un problème de démographie médicale, surtout concernant les psychiatres, qui va probablement imposer de nouvelles approches thérapeutiques. Alors, l'imagination est au pouvoir et c'est souvent la société qui nous pousse à innover dans des secteurs prioritaires comme le numérique. Et en fait, cyberpsychologie, c'est la rencontre entre les techniques thérapeutiques, diagnostiques, expertise et le numérique. C'est ça ce que ça veut dire. C'est une rencontre. Alors aujourd'hui, dans quel champ ? Dans quel champ on peut le trouver ? La première, c'est la téléconsultation ou la consultation à distance, qui n'est pas sans poser problème, mais qui peut exister. Alors, ça pose des problèmes aussi, bien sûr, de confidentialité ou d'anonymat, mais on peut avoir une consultation à distance, on peut même faire des psychothérapies, des suivis à distance. Alors, on peut utiliser aussi bien les mails, le Skype, on peut utiliser également le téléphone, avec toujours le risque de ne pas remplir des conditions éthiques absolues. Deuxième champ qui est important, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les cognitions sociales, c'est-à-dire comment aussi valoriser tout ce qui est cognitif. Et ça se fait aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on, disons, dans le cadre des jeux ordinateurs assistés et dans le cadre des pathologies déficitaires. Quand on a une pathologie lourde mentale, comme une schizophrénie ou un autisme, on a des troubles déficitaires. Et ça peut bien fonctionner en termes de remédiation cognitive. Autre champ d'expérimentation, c'est comment on peut valoriser l'estime de soi, comment on peut valoriser aussi un meilleur narcissisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive, en faisant ce qu'on appelle, en développant les compétences de gratitude, notamment dans le cas des champs des pathologies suicidaires. Autre champ, c'est l'immersion en 3D. Alors, comme on voit tout à l'heure, il y a Mars, mais là, on va dire qu'on utilise une immersion dans un champ qui est très réaliste, mais c'est une simulation numérique. Je pense que nos collègues, peut-être, vont en parler. Et cela se fait dans le cadre de pas mal de pathologies. Les plus courantes, c'est les phobies. Les phobies, par exemple, la peur des grands espaces, qu'on appelle l'agoraphobie, ou la peur du vide, ou la peur d'avion, ou la peur du sang. Et là, on met le patient en simulation avec ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on utilise un procédé qui s'appelle les thérapies comportementales, c'est-à-dire qu'on découpe le stress avec un stress le plus faible pour aller jusqu'au stress le plus important. Je vous prends un exemple, par exemple le sang. Le sang, à partir soit d'une goutte de sang, et on arrive jusqu'à une perfusion de sang. Donc on découpe des séquences qui sont de plus en plus anxiogènes, et pour le patient, ça lui permet de s'affronter à une anxiété de plus en plus importante, et donc de maîtriser ses émotions. On pourra peut-être développer sur d'autres pathologies. Il y a les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du comportement alimentaire. Mais je voudrais surtout insister, dans ce premier tour de table, pour dire l'intérêt aussi de la cyberpsychologie, c'est que ça nous permet de faire des progrès immenses au niveau de l'enseignement et de la recherche. Au niveau de l'enseignement, ça permet aussi aux jeunes psychiatres de pouvoir aussi voir ce que font les autres et donc d'avoir ce qu'on appelle une supervision, d'avoir un retour en feedback sur ce qu'ils font et donc pouvoir travailler une amélioration des bonnes pratiques. Et au niveau de la recherche, ça permet de façon considérable d'évaluer le comportement humain, et de voir aussi qu'avec le numérique, on a un effet désinhibition majeur et donc on a accès aux pensées les plus intimes, aux fantasmes les plus importants, qui nous permet aussi d'évaluer l'évolution de la société et qui sera probablement un outil important dans le cadre des psychothérapies des adolescents. Voilà, un premier champ.
Comme vous l'avez souligné, les questions éthiques sont importantes.
Elles sont majeures.
Il y a la question, disons, de la confiance qu'on peut faire. Et pour le moment, il s'agit de soignants humains qui sont médiatisés par la machine, en quelque sorte. Mais est-ce qu'on n'a pas une envie en nous, qui reste peut-être encore un fantasme, d'un soignant, d'un confesseur qui est l'impartialité de l'inhumain. parler à un programme. Peut-être que Milad peut nous dire un mot sur, en tout cas, sur ce qui est peut-être un fantasme de ma part.
Oh non, pas seulement de votre part, je crois. Ça existe depuis très longtemps, ce fantasme, qui est associé à la fois aux idées qu'on a depuis très longtemps et qui ont évolué, effectivement, vis-à-vis la neutralité, l'objectivité, l'impartialité de la machine, du robot, et ainsi de suite. Mais en même temps, la vraie question qui se pose, c'est celle de la confiance et de sa construction. Ce qu'on observe, c'est un petit peu ce qui a été dit en quelque sorte, c'est qu'avec le numérique et ses évolutions et ses mutations, il y a eu un déplacement de la construction de la confiance sociale qui va toucher aussi au rapport psychologique, cyberpsychologique, entre experts, spécialistes, et ainsi de suite. Le second aspect qui me semble également intéressant, et pour essayer de répondre à la question vis-à-vis ce désir ou cette volonté d'aller chercher une figure non humaine, dans ce sens-là, de la machine un peu intelligente ou pensante, pour qu'elle puisse nous consulter et nous accompagner, c'est vis-à-vis les interrogations qu'on a depuis quelque temps et qui sont devenues aujourd'hui beaucoup plus transparente et même plus aiguë autour du statut de l'autonomie de la machine, surtout quand elle accède à un certain degré de compétence pour qu'on accepte qu'elle devienne psychiatre, psychologue, médecin, au-delà juste de simples interventions et de consultations. Je crois là, ce sont les questions qui nous interrogent depuis très, très, très longtemps et qui sont devenues d'une actualité assez importante. Dans ce contexte, effectivement, il y a plusieurs manières de regarder les choses. Moi, par exemple, je suis frappé par le terme cyberpsychologie. Parce que le mot cyber, évidemment, on connaît d'où est-ce que ça vient, c'est de Wiener et de la cybernétique, puis après le cyberespace. Mais je me rappelle également un texte qu'on a oublié maintenant, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, la déclaration d'indépendance de cyberespace, qui a voulu quand même introduire une notion de souveraineté de l'humain dans son rapport avec la machine à l'époque, contre les États, qu'ils soient occidentaux ou ailleurs, et qui avait, dans certains de ces paragraphes, des textes qui portaient sur les rapports narcissiques individuels, leur construction dans cet espace particulier. Aujourd'hui, on a dépassé, semble-t-il, cette phase, et on est revenu vers autre chose, vers des formes d'interactivité qu'on n'avait pas à l'époque, et qui semblent façonner également cette dimension de fantasme, mais dans le bon sens du terme, d'aller chercher des psychologues, on va dire cyberpsychologues. Pour répondre, je dirais, ce qui est intéressant, effectivement, on oublie, sauf si on arrive à un certain moment où les machines peuvent produire des machines d'une façon relativement autonome, on va rester avec les contraintes éthiques de la construction algorithmique, malgré les modèles d'apprentissage qui seront derrière. Et du coup, pour l'instant, on a beaucoup de mal à imaginer une certaine forme d'éloignement de l'humain vis-à-vis cette sorte d'autonomie de la machine.
Oui, pour moi, la question de la cyberpsychologie, je vais un peu changer de registre. C'est surtout une question du rapport psychologique dans la relation entre l'homme et la machine, parce que la machine n'a pas de psyché, hein, elle n'a pas d'âme. Et pourtant, dans la relation de l'homme, dans le dialogue, par exemple, de l'homme et de la machine, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie. Même si la machine, d'emblée, est quelque chose qui calcule, c'est un individu calculant, on devra dire non, mais elle ne peut pas entrer dans un rapport psychologique avec l'homme. Et si pourtant, bon, déjà elle calcule, mais elle a aussi des valeurs. Bon, par exemple, avoir plus d'informations pourrait être une valeur de la machine, pourquoi pas. Et si je pense à ce film d'ailleurs qui est projeté ici, j'espère que vous l'avez vu, Ex Machina, un film magnifique d'Alex Garland. Dans ce film, il y a un exemple qui est très, très spécial et très, très intéressant, d'une femme robot qui s'appelle Ava, qui interagit en dialogue avec un jeune geek. Et le geek sait parfaitement bien que c'est un robot, hein, donc il n'y a aucun doute, aucune illusion. Et pourtant, petit à petit, un rapport psychologique, émotionnel se crée, même si vous le savez, qu'il n'y a pas d'âme, d'esprit, de psyché dans cette machine-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Un aspect très intéressant et énigmatique pour moi, que je n'arrive pas vraiment à comprendre jusqu'au bout, c'est la question du mensonge. Alors, au milieu du film, on voit un épisode qui devrait nous effrayer tous, nous faire peur, parce que l'homme essaie de mentir et Ava lui dit, non, là tu mens, là tu dis vrai, là tu mens, là tu dis vrai, c'est un test parfait. Elle s'est déterminée dans 100% des cas si l'homme est en train de mentir ou pas. Et donc le mensonge, devient impossible dans l'interaction machine, devrait-on penser, hein. L'homme est totalement transparent devant une machine qui sait parfaitement s'il est en train de mentir ou pas. Et le mensonge, quand même, bon, vous voyez bien le rôle du mensonge dans la construction des relations humaines, de la politique, de la violence, de la paix aussi. Le mensonge, on ne peut pas simplement l'effacer. Il joue un certain rôle dans la société humaine. Et donc, si l'homme devient complètement transparent, il ne peut plus y avoir même de ce rapport psychologique. Et pourtant, quand vous continuez, donc dans Ex Machina, le scénario continue, le film continue, et il se passe quelque chose d'intéressant dans ce rapport de pure transparence, de pur pouvoir du robot sur l'homme. Tout à coup intervient la ruse, la métisse, pas le mensonge tout court, parce que la machine sait le détecter, mais l'homme, il est rusé, et ce jeune geek, à un moment, il dit au robot, ben, je veux faire quelque chose, en fait, il l'a déjà fait, le robot a l'air d'acquiescer, de ne pas comprendre que c'était une ruse, etc. Et donc, c'est là toute la différence entre un rapport de pouvoir, un rapport de psychologie transparente, l'effacement du mensonge, des choses effrayantes et vraiment pas agréables, et le retour de la ruse, de la métisse, avec le mot grec, métisse, dans ces relations, et la création d'une psychologie autre, hein, d'une psychologie qui est sans doute aussi une projection des traits humains, mais d'une psychologie qui est quand même possible dans la relation homme-machine. Et donc, si le mensonge est impossible, la ruse, elle, reste possible. Et je pense que cette psychologie fondée, non pas comme Achille dans l'Iliade, sur un rapport transparent de pouvoir, mais un peu comme Ulysse dans Odyssée, sur la ruse et la métisse. C'est ça l'avenir de la cyberpsychologie.
On a déjà vu dans une autre table ronde au début du congrès, samedi, que les émotions peuvent être maintenant mesurées de façon très précise et effectivement les machines risquent de nous connaître très bien. Mais les machines peuvent peut-être se moquer de nous aussi, non Olivier ? Je me souviens que un des premiers essais d'intelligence artificielle ou du moins de test de Turing qui est plutôt considéré comme un gag maintenant, était un simulacre de psychanalyste. Est-ce que les machines vont se moquer de nous ?
En tout cas, je vais parler plutôt au point de vue lecteur, là, parce que j'ai une collection assez importante de nouvelles humoristiques, et il y en a une très grande quantité, justement, sur l'intelligence des machines. Et on trouve énormément de prétextes de rire parfois très jaune, hein, de l'intelligence artificielle et de ses relations avec nous. Par exemple, une nouvelle dont je me rappelle, c'est des scientifiques faisant la première intelligence artificielle capable de faire de la poésie et qui développe une énorme dépression en direct devant eux et en moins d'une heure finit par se suicider en effaçant son disque dur sans qu'on puisse rien y faire. Donc ça, si ça se trouve, on a des gens qui travaillent en ce moment même à essayer de faire des dépressions artificielles pour voir comment ça fonctionne. Ça pourrait être un champ de recherche, peut-être un peu sadique, encore un petit côté éthique à creuser. Il y a également d'ailleurs le robot dépressif du guide du retard galactique, qui est totalement insupportable. On a également l'aspect de l'hôpital totalement automatisé dans une nouvelle, je crois que c'est John Sladek, mais si je me trompe on m'excusera, où quand on n'a pas assez d'argent on arrive dans cet hôpital entièrement automatisé qui est également maintenu de façon automatique et évidemment au bout de 10 ans fonctionne de moins en moins bien et une fois qu'on y entre on ne peut plus jamais en sortir parce que les machines trouvent toujours une bonne raison de vous garder. Celle-là, elle faisait autant rire qu'elle faisait froid dans le dos, c'était assez fabuleux. Donc la SF a vraiment déjà exploré par avance un nombre de champs, souvent sur le chemin de la rigolade, comme c'est plus facile et meilleur pour des nouvelles. Et en fait, je ne suis pas très pressé d'y arriver, honnêtement.
Le rire est souvent la meilleure manière de parler les choses insupportables. Nous le savons. Mais tu nous as changé le point de vue là. On était parti avec des machines. Mais non, c'est très bien de changer de point de vue. On est parti avec des machines soignantes et là, on a eu des machines qui sont des patients dans certains cas. Et peut-être, mais aussi des machines soignantes qui ont la tentation de réparer l'humain, parce que je suis sûr que quand la machine sera suffisamment perfectionnée, elle va penser que nous sommes tous en panne. Hein ? c'est ça aussi assez terrifiant. Mais peut-être aussi on peut avoir des hybrides, c'est-à-dire des humains qui aient des composantes machines. Et ça, par exemple, on le trouve chez vous, Anne Leckie. Peut-être que vous pouvez nous dire deux mots sur ça et sur comment on peut espérer ou craindre que les hommes soient, comment dire, fusionnés avec des machines.
Yeah, I kind of cheated when I wrote about the psychology of an artificial intelligence because I gave it a human body, and so, or gave it human bodies, many human bodies, all working together as part of the ship's artificial intelligence. And so, of course, they have a human physicality as part of their existence. But I think in some ways, there's a similarity. We work the way we work because our brains are built the way they're built. But it isn't just the physicality of our brains. We also have our history, the things we have met that have harmed us or helped us, that have been pleasurable or painful, the kinds of stories we tell about ourselves, the kinds of stories we hear about ourselves and about other people. And that puts a layer of, I'm going to say, although it's not the same thing, a layer of software on top of our hardware, which makes things like depression very difficult to deal with. You can say, oh, we fiddle with the serotonin levels and that'll fix it, but it doesn't, because there's also this very complicated other layer of stuff above it, and it makes for a very complicated problem. I feel like it would be so wonderful to have machines that could do that, where if you felt you couldn't trust a person or it was hard to find an appointment with someone, you could go to the machine and say, help me. But the machine also has those two layers, right? There's the mechanics, there's the silicone, and then there's the programming. And so for me, on top of the ethical questions of confidentiality, of being able to trust, where does that machine's data come from? Who programmed that machine to do what? And maybe they meant it to do a particular thing, but the task is so complicated, it ends up doing something else. Or maybe the person who programmed it is not friendly, and it seems like it's helping you, but it's not. And it's opaque. You can't see that. When you go to the computer confessor, who seems very safe and objective, and we often feel like, if it comes from a computer, it must be true, it must be impartial. But there is no computer that runs without a background of human data input into it that it's working off of. And that is never impartial. No human being gives completely impartial data. We only have our own place where we're standing, our own point of view. And so on top of all the ethical problems, there's the question of who is programming those machines and what are the results of those programs going to be.
Oui, clairement, l'éthique reste au centre du débat. Milad, je crois que...
Oui, très rapidement, pour réagir à ce qui vient d'être dit, il me semble, en anglais, il y a une distinction qui est importante et qui a été évoquée par un des qui, c'est entre trust and reliance. Je crois que c'est très, très important parce que ce n'est pas le même registre. Et on a parfois tendance à confondre les deux, ce qui vient de dire dans cette construction-là. Mais au-delà de là aussi, juste en écoutant les uns et les autres de mes collègues, je me suis rappelé quand même au début avec Asimov, il y a la nouvelle absolument fantastique, Liar, qui est le robot qui va se suicider à la fin. Ce n'est pas l'humain qui va se suicider, c'est le robot parce qu'il essaie de maîtriser un petit peu l'art, je ne sais pas dire si c'est de la ruse, en tout cas du mensonge, et il n'arrive pas à le faire. Du coup, il rend possible des situations tragiques et après, il s'élimine lui-même. Mais également, une petite remarque sur le modèle ruse entre Ulysse et Achille. Il me semble qu'il reste un modèle binaire, parce que quand on regarde déjà chez Best of the Kings de Greg Lunage, qui a fait toute la construction d'opposition, pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est biais. la force, à la fois et le vivant d'un côté qui sont du côté d'Achille, et la métisse, la ruse, qui vont être du côté d'Odysseus et d'Ulysse. Alors dans ce cas-là, on a une opposition qu'on va retrouver dans nos échanges entre cette force vitale et cette capacité de contourner le système. S'il y a un équivalent de la ruse, et je vais me tiendre là, ça sera le hacking, le contournement, et là, je crois, on entre dans un truc tout à fait intéressant. Rachel Boucher ?
Oui, alors moi, à vous écouter les uns les autres, je me dis, on est très loin de la souffrance mentale dans ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de rapport psychologique, on parle plutôt de rapport interactif, de rapport interhumain. Hein. Donc là, quand on est face à un patient, alors je me permets de le dire, moi, en tant que médecin, j'ai un savoir, lui, il a un savoir. Moi, j'ai le savoir du médecin, lui, il a le savoir du patient. Et c'est un échange de savoir. Et donc, effectivement, je ne peux l'aider que jusqu'où de mes compétences. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir l'aider dans la souffrance qui m'amène à développer des compétences et lui permettre de changer le braquet. C'est-à-dire, s'il a une angoisse, en fonction... Qu'est-ce que cette angoisse recouvre et comment je peux modifier son comportement par rapport à une situation anxiogène. Donc, on est un peu dans un rapport différent et je ne peux pas m'empêcher de penser à une lecture que j'ai faite cet été, si vous me permettez. J'ai lu par hasard Philothérapie d'Eliette Abécassis. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a lu. Et à ma grande surprise, donc c'était justement une psychothérapie avec un philosophe, comme ça peut arriver, mais ça aurait pu être une psychothérapie avec un psychiatre ou un psychanalyste. Et en fait, c'était un faux, c'est un avatar, c'est-à-dire que ce n'était pas celui qui détenait le savoir, mais celui qui détenait le savoir était un autre qui transmettait les réponses à quelqu'un d'autre. Si vous l'avez lu, vous savez. Et donc, en fait, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans la réalité des rapports humains, c'est cette relation interhumaine, comme vous l'avez dit, la confiance. La confiance, c'est sur un être humain. Et comme vous l'avez dit très justement, cet être humain, il a une histoire. Donc, en fait, on ne fait pas seulement que gérer les émotions, on gère aussi la souffrance. Donc, on doit aller un peu plus loin que seulement ses propres émotions. On doit aller plus loin pour aider ce qui, à un moment donné, n'a pas fonctionné chez l'autre et s'est transformé en symptômes. Là, aujourd'hui, peut-être qu'en face de nous, on n'a aucun, on a des symptômes. Par contre, on peut tous se mettre en colère. Mais gérer la colère, on n'est pas en train de traiter une maladie. On traite des émotions. Et je crois que c'est ça la différence. Et par rapport à un robot, je voudrais juste dire ça, c'est que le robot, il peut aller aussi loin pour vous aider dans la gestion de vos émotions ou la gestion d'une situation anxiogène, mais le robot n'ira pas plus loin que ce qu'on lui a appris. Par contre, et c'est là où je dis que c'est un domaine important, le robot peut mettre en situation le patient dans une situation virtuelle qui lui permettra d'enrichir son expérience et d'aller au-delà, développer face à une même anxiété, par exemple un vol d'avion, une prise de sang, il pourra être plus riche de cette expérience virtuelle, de cette expérience simulée, pour faire face à une même situation. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Voilà.
Je veux vous dire ce que c'est que la souffrance mentale d'une machine. Et la façon d'arriver à répondre à cette question, souffrance mentale d'une machine, bon, bizarre. Vous savez, moi, je me suis posé la question qui, pour moi, est fondamentale pour penser à la psychologie, parce que je vous rappelle, la psychologie d'une machine, c'est toujours un leurre. La question de la jalousie. Alors, la jalousie, est-elle possible dans la relation homme-machine, entre les machines et qu'est-ce que la jalousie? Bon, on dirait, non, mais les machines n'ont pas de psyché, n'ont pas d'esprit, donc, de toute façon, c'est une métaphore. Mais si on essaye de penser aux structures, qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, c'est une relation, un couple et le troisième qui est exclu du couple, d'accord? Et cette relation d'exclusion, elle est parfaitement possible, vous pouvez très bien vous l'imaginer avec les machines, mais sur quoi porte-t-elle? Bon, pas sur un lien d'amour probablement, mais surtout sur le manque ou l'absence d'information. Donc la jalousie dans le monde des machines, pour moi, c'était le chemin vers la question de la souffrance mentale, si vous voulez. Que c'est, la jalousie est possible parce que l'exclusion est possible. Simplement, une machine peut savoir qu'une autre ou un homme possède telle information, mais elle ne le possède pas. Et donc la jalousie est possible. Et donc la souffrance mentale, c'est le manque d'information. C'est quand vous savez, quand la machine sait, hein, quand la machine sait qu'une autre ou un autre agent possède telle information, mais elle-même ne la possède pas. Et à partir de là, de cette façon structurelle, vous voyez, on ne parle pas ici de psyché, mais de sur ce plan structurel, dans le langage de l'information, vous pouvez redéfinir tout ce qui forme, enfin tout, hein, en tout cas beaucoup de relations qui forment la base des rapports psychologiques entre les hommes. Sauf que ce sera cette fois-ci pour le monde des machines. Et donc la souffrance mentale d'une machine, c'est simplement l'absence d'une information.
D'accord. Non, non, mais je, disons, je ne parlerai pas de la machine, je parlerai de l'homme, mais je ne veux pas, disons, vous envahir. Je dirais qu'au niveau de la jalousie, d'abord, la jalousie, c'est un sentiment, on va dire, normal. Quand ça devient pathologique, c'est quand ça envahit toute notre sphère de pensée, on ne pense plus qu'à ça. Bon, ça, c'est un envahissement total. Après, pour avoir cette jalousie pathologique, il faut avoir des traits de personnalité, on va dire sans rentrer dans des gros mots comme une paranoïaque, mais quand même dans des structures de personnalité pathologiques. En ce qui concerne, disons, le robot, je dirais au-delà du robot, on va dire le premier robot, c'est... moi, je vois ma petite fille qui joue avec sa poupée, c'est un robot. Hein. C'est-à-dire, sa robot, elle a peut-être essayé de marcher, pleurer, elle sait faire pas mal de choses. Hein. Et donc, après, c'est la question de la possession et du partage. Donc, la question, ça dépend, par rapport au développement de la jalousie, ça dépend de l'individu. C'est-à-dire à quel moment il est prêt à partager, à quel moment il est prêt à se mettre avec les autres pour parler de ses relations avec le robot ou avec les autres êtres humains. C'est à ce moment-là que ça va se déclencher. Donc, je pense que l'information n'est pas le seul élément pour déclencher une jalousie, c'est aussi de la part de l'humain ce phénomène de possession. Je veux que la poupée n'appartienne qu'à moi, je veux que le robot n'appartienne qu'à moi, je veux que mon amoureux ou mon amoureuse n'appartienne qu'à moi et je ne veux pas qu'elle parle avec d'autres. À ce moment-là, j'ai la suspicion qu'elle peut appartenir à d'autres ou qu'elle peut m'échapper.
Un mot qui rejoint ce que vous avez dit. Justement, je pense qu'on est assez complémentaires là-dessus. Oui. Dans un autre monde, je suis physicien et je fais des recherches en mécanique quantique. Et avec l'information quantique, on parle de monogamie de l'intrication quantique. Donc cette information ne peut pas être partagée avec tout le monde. Il y a un lien qui est monogame. L'information peut être partagée avec un seul autre système, mais pas avec tous les systèmes. Et là, c'est peut-être l'origine de la jalousie des machines.
Peut-être.
Ok.
Peut-être.
Les autres participants vont être jaloux, ou plus précisément envieux, si on ne leur laisse pas la parole. Anne.
I think there's actually a big difference between the conditions that create an emotion, like the lack of information or not having something that someone else has that you would be pleased to have, and the actual physical reaction that makes you feel a pain or makes you feel that emotion. But the problem is, of course, how do you tell when that's happening? Because I can look at another person and say they're jealous from the way they behave. And I can look at a machine that's behaving in a way or says something, but how do I know it feels that? So in a way, I think one of the reasons the relationship you're talking about in Ex Machina, where you're saying there shouldn't be a psychological relationship possible because we're looking at a robot that isn't really thinking or doesn't have a soul, whatever that is. But in fact, our relationship with other people is kind of like that. We need to learn from very small children. When we look at someone, no, they have that interior life. They have this sensation. And so when you look at a machine, you automatically say, well, it must have that sensation. But they're two different things. And it's difficult to separate out when you're just on the outside looking at an entity behaving. It's hard to see which one is which.
C'est tellement difficile que culturellement, il y a eu des époques où certains humains pensaient que d'autres humains n'avaient pas d'âme.
Sometimes you'll still run into people who do think that, and that's alarming, but yeah, it happens.
Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'on peut avoir... ces désinformations. Et si j'ai bien compris, je reviens un peu sur des choses qu'on a évoquées, mais peut-être pas assez développées. On peut avoir beaucoup d'informations pour suivre des gens, pour suivre des patients. Et est-ce que ce n'est pas trop d'informations? Est-ce qu'on n'a pas peur qu'on va les contrôler ainsi?
Contrôler?
Ou du moins, où s'arrête la limite de ce qu'on a le droit de savoir d'une personne?
Mais c'est pour ça que la question du droit de savoir, c'est bien dans le cadre d'une relation de confiance. Hein, c'est une relation de confiance, on disait même, c'est la rencontre de deux consciences, celle du thérapeute et celle du patient. Donc là, les problèmes de confidentialité, d'intimité sont majeurs. Quand on ouvre le champ du numérique, effectivement, là, les règles éthiques sont à redéfinir. Et je pense qu'actuellement, on ne sait pas très bien jusqu'où ça va. Quand je vous disais qu'effectivement, le cyberespace pourrait donner des perspectives sur d'autres types de psychothérapie avec des médiations, comme on voit avec des serious games ou avec des jeux vidéo, ça donne la possibilité, vous parliez d'algorithmes, on voit justement dans le cadre des jeunes qui ont des comportements suicidaires, de leur proposer différents types de comportements et de voir après ce qui se passerait s'ils avaient choisi une voie plutôt qu'une autre. Il existe donc des jeux vidéo, des jeux informatiques qui leur permettent de simuler un comportement et de voir qu'il ferait mieux de prendre un comportement plutôt qu'un autre. Ça permet aussi d'apprendre et dans cet apprentissage de pouvoir choisir d'autres voies dans la réalité. Alors après, le problème se pose, c'est quand on vient voir un médecin, c'est le problème de la confidentialité, le problème du secret. Est-ce que le secret existe dans le monde numérique? Est-ce que le secret existe dans le cadre du cyberespace? Je ne le crois pas, mais je ne le sais pas.
Je vois qu'Olivier a quelque chose à dire.
Une des choses qui, moi, me rassure dans les informations, genre psychologie, surtout si on va de plus en plus vers une approche numérique, c'est qu'on va avoir tellement d'informations que ça devient une protection en soi. Plus vous avez d'informations, plus ce qui est secret est caché dans une masse d'infos qui va vous faire un bon gros couvercle. Ça peut vous faire renoncer quiconque de justement les exploiter. Et c'est là que je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est beaucoup plus facile de hacker au lieu de s'embêter de traiter. Alors voyons ce cas-là, il y a 75 téraoctets de données, oh là là, quel bazar, je vais plutôt carrément modifier le câblage. Pourquoi pas, puisqu'il y a des problèmes d'émotion, prendre un bon composant électronique et puis aller l'implanter là, et quand ça ne va pas, ben, on fait une petite régulation, on n'a pas besoin de connaître l'info, comme ça, et hop. Et franchement, d'un point de vue d'écrivain de SF, je ne m'embêterai pas à aller faire traiter 75 téraoctets de données quand je peux modifier l'ordinateur.
Je crois qu'il y a évidemment deux dimensions très différentes, effectivement. Dans la tradition américaine, quand même, il a existé une série de livres pour revenir aux questions qui étaient posées. Le premier, c'était « Vers la société transparente », où on avait tellement de surabondance d'informations et de données. L'essentiel, c'était de contrôler l'accès et de s'assurer un certain accès démocratique, on va dire, entre guillemets. Puis après, on a découvert que c'était un paradoxe. On a fait un second volume, c'est-à-dire le paradoxe de la société ouverte. Et aujourd'hui, on est passé ailleurs vers deux modèles qui sont à la fois en tension et en contradiction, ce qui vient d'être dit. D'un côté, on a la surveillance, et du coup, on va voir tout ce qu'on connaît maintenant par cœur. Mais de l'autre côté, au-delà de la surveillance, on a les modèles de recommandation qui sont devenus des modèles de prescription implicite. Et je crois que c'est un peu ça qui devient inquiétant, c'est-à-dire cette masse de données peut être exploitée et utilisée pour façonner au fur et à mesure, ce qui renforce l'importance de pouvoir hacker, intervenir, modifier, agir. Et je crois, là, alors, point de vue des psychologie, effectivement, aux cyberpsychologies, bon, on n'a pas eu le temps parce que c'est un autre sujet peut-être, c'est tout ce qui va être associé au quantified self avec toutes ces données qu'on est en train de collecter, tout ce qui est de, surtout de ces interfaces entre, d'un côté, ce que la mesurabilité par les sciences cognitives et puis ce qui peut être fait et fabriqué avec le numérique pour des traitements psychologiques, ainsi de suite. Je crois que c'est un domaine qui à peine commence à se lancer. Moi, j'ai un scénario, mais je ne suis pas un écrivain de science-fiction, mais j'aimerais bien lire une petite nouvelle, en tout cas, qu'on devienne tous des hypochondriaques. C'est-à-dire, on arrive à un tel point, on a tellement de données sur notre rythme cardiaque, sur notre tension, je ne sais plus quoi, etc. Et on devient presque tous à la nuit des hypochondriaques à une échelle globale. Ça serait pas mal comme avoir un petit peu pour changer d'atmosphère, si j'ose dire.
Alors, juste deux points. Hein, ne devient pas hypochondriaque qui veut. Je veux dire, c'est pas subitement, c'est pas parce que on va compter le nombre de pulsations. Je veux dire, disons peut-être qu'à certains ça fera ni chaud des fois, les autres on doit être 80, il y en a à 78 ils seront complètement paniqués, il y en a à 60 ils s'en foutent complètement. La deuxième chose, quand vous dites trop d'informations, moi je dirais pas assez d'informations. Si on parle de la télé, disons justement des consultations à distance. Je reprends le livre d'Abbé Cassis, justement, où si on prend des consultations virtuelles, par rapport à moi, psychiatre, en vrai, quand j'ai un vrai malade en face de moi, j'ai des données par sa mimique, qui sera peut-être déformée par Skype, par sa façon de peut-être de transpirer, sa façon de bouger les mains, sa façon de bouger, même sa façon de regarder mon bureau. Sa façon de me regarder, que je ne verrai pas aussi en télé consultation, en consultation virtuelle. Donc, ce que je veux dire, on a peut-être des trucs en plus, mais on aura des trucs en moins aussi, par rapport aussi au fait, quand on est en face à face, il y a des choses qui se passent, disons comme là, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent. Si on faisait le même débat en Skype, on ne se dirait pas tout à fait la même chose. Vous êtes d'accord ?
Mais peut-être aussi que les interfaces s'amélioreront.
Un mot à propos des interfaces pour terminer. Ce qu'a dit Anne, c'est un problème fondamental. On peut projeter une psychologie sur la machine, bien sûr, mais l'interaction a besoin d'une interface. Il n'y a pas d'interaction avec la machine sans interface. Et cette interface ne nous permet absolument pas de saisir ce qui se passe du côté de la machine. C'est toujours une projection de notre théorie, notre psyché humaine sur la machine. Et pour parler d'ex machina, vous vous souvenez peut-être à la fin, l'homme ne comprend pas, il reste coincé à la fin du film, parce qu'il ne comprend pas une question que lui pose Ava. Elle lui dit « Will you stay here ?»« Veux-tu rester là ?» Et il ne dit ni oui ni non, il ne comprend simplement pas la question. Parce que mentalement, psychologiquement, il n'est pas prêt à suivre, à comprendre où elle veut aller. Et ça, c'est un problème fondamental. On peut redéfinir toutes ces structures psychologiques pour la machine, mais par contre, l'interface, elle reste ce qu'elle est. Elle reste une interface de projection humaine et pas de vrai contact, je ne sais pas ce que ça veut dire, avec la machine.
Merci. Je crois qu'il est temps d'avoir des questions du public. Et nous avons des micros. Voilà. Donc.
Bonjour. Je pensais à l'hypothèse de là où on deviendrait tous hypochondriaques, éventuellement avec des bracelets qui nous donneraient notre rythme cardiaque, notre tension. Certes, si ça arrivait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait rien à faire, d'autres qui paniqueraient. Mais est-ce que ce serait possible qu'on devienne tous hypochondriaques vraiment, avec un matraquage médiatique à la longue, comme il a été par exemple avec la sécurité routière ? À une époque, on ne mettait jamais notre ceinture de sécurité, c'était la norme. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne met jamais sa ceinture de sécurité, c'est un grand malade. Alors, est-ce que plus tard, avec une forte importance médiatique, un fort matraquage médiatique, est-ce que avoir deux tensions en moins que par rapport à d'habitude, ce serait vraiment la crise ?
Alors, c'est-à-dire ça, moi, je m'en... Non, c'est-à-dire que ce que vous me dites, c'est si on met en avant des normes, si on est en dehors de la norme, comment va-t-on réagir si on est en dehors de la norme? La question, c'est l'angoisse. C'est-à-dire, c'est, disons, l'angoisse. Est-ce que je peux supporter de ne pas être dans une norme? C'est un peu... C'est pour ça que vous mettez en lien avec la sécurité routière. Je crois qu'on n'y est pas, quand même. On n'y est pas parce que... je vais me retrancher sur un autre champ que vous connaissez, que vous n'avez pas évoqué, sur mon champ syndical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de médecins. Si on commence... Voilà. Si on commence à dire tout le monde doit avoir... En termes de diabète, en termes, disons, justement, de chiffres, tension, poids, diabète, disons, les problèmes d'alcool et tout, si on commence, déjà, on a du mal. On voit quand même, par exemple, si on prend le problème de l'abus des substances, que ça soit ou des toxiques ou de l'alcool, on voit qu'on a du mal. On sait bien qu'il y a des normes à ne pas dépasser, qui sont quand même dépassées, parce que, comme vous le savez, ça n'a rien à voir avec seulement le fait de rester normatif, mais ça a à voir avec des besoins très profonds. Quand les jeunes s'alcoolisent, ils s'alcoolisent aussi pour être à la recherche de sensations, de plaisir, de sensations aussi profondes, peut-être d'évanouissement, mais ils sont à la recherche de sensations très personnelles. Et ça, il peut y avoir des règles. Je veux dire, contre ça, si on veut lutter contre l'abus de substances ou l'abus d'alcool chez les jeunes, ce n'est pas en érigeant des normes, mais c'est bien en essayant de comprendre pourquoi ces jeunes vont à la recherche de ces tendances ou de ces plaisirs extrêmement dangereux. Pourquoi ces jeunes vont dans le sens des conduites à risque. Et ce n'est pas seulement en mettant des normes que les jeunes reviendront sur les normes.
And I mostly agree with you, absolutely. But I think there's an additional layer, which is that sometimes even now we can see standards that are not realistic, so that many people can't live up to the standards even if they want to. And of course, some people will just say, well, to heck with the standards, I don't need to worry about it. But folks who are predisposed to anxiety about not being able to meet those standards are going to be in a situation where they're more likely to experience that anxiety. And so I do think that is an important question, always remembering that some people are predisposed for whatever reason to just blow it off, and some people are going to be predisposed to be at risk when those standards are in place. And so then the question is, who's setting the standards? Who says what's healthy? And is that realistic? Can a normal person actually meet those? And I also think about, I've known a few people in medical school who you go through, and it's not learning about the body that makes them suddenly feel like they have everything in the book, right? But learning all the things that can go wrong then makes them stop and think, oh, what if it will go wrong with me? So it's not the information itself, but it's the direction of the information. Is it positive? Is it about how wonderful all this data is, or is it about, and these are all the ways you're now suddenly at risk? And it makes a difference how the information is conveyed and how that information is framed, I think.
En fait, si je peux rebondir juste pour rajouter ma petite couche sur cette intéressante question, ça fait deux fois que vous me posez une intéressante question, vous, hein, je vous reconnais. On pourrait imaginer que ça devienne ça pourrait être un intérêt commercial de rendre les gens comme ça. Imaginons, on fait des jolies petites montres qui vous prennent le pouls. Passons dans le transhumanisme un petit peu, on fait une interface qui vous procure du bien-être si vous avez la bonne moyenne. Quand vous ne l'avez plus, bah, vous commencez à angoisser, c'est la machine qui vous dit de le faire. Et là, on pourrait imaginer que Apple ait son intérêt de vous louer le moyen de revenir à une tension plus basse, etc. Donc là, on vous fait de la science-fiction sur mesure sur ce sujet, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un vrai intérêt, parce que psychologiquement parlant, le cerveau lui-même ne va pas forcément adhérer. Il faut que quelqu'un le force. Et dans ce cas, il faut trouver un intérêt à le faire. Et dans ce cas, on prend une bonne multinationale, que ce soit Google ou Apple, on en fait un méchant et je vous fais une nouvelle, il n'y a pas de problème.
Question suivante.
Ouais. Minority Report avait permis de mettre en lumière et de rendre diffusable la notion de volition, qui est différente de la préméditation, des velléités. Et en matière de prévention, avec les différents niveaux de prévention, la gestion du risque et les possibilités thérapeutiques, j'aurais aimé savoir si effectivement l'ouverture du champ du numérique et l'exploration des espaces fantasmatiques donnait la possibilité de rendre consistante cette notion de volition dans les prises en charge.
Vous pouvez préciser volition parce que j'ai peur qu'on n'ait pas la même définition.
Je vais le citer tel qu'il est présenté dans l'œuvre cinématographique. C'est dans Minority Report, il y a trois entités qui ont des capacités cognitives qui permettent de préformer en fait les vœux des sujets, que ce soit en matière macabre, criminologique ou autre. Et donc le film se base sur le fait que la troisième entité, qui a des capacités cognitives présupposées plus élaborées, forme des rapports minoritaires, ce qui permet d'influer ou non les jugements tripartites. Et donc par rapport à cela, la volition, en fait, c'est dans la projection du futur, notamment avec les progrès de l'imagerie cérébrale, avec la détermination des zones et des aires émotives, comment est-ce qu'on pourrait pouvoir rendre utilisable cette notion de volition dans les possibilités thérapeutiques?
Oui, moi, je crois qu'il y a un champ très important dans le cadre de la prévention. La prévention des conduites à risque, la prévention des maladies, le dépistage des maladies. Je crois que le numérique peut nous apprendre dans la mesure où, je vais dire peut-être un gros mot, mais je pense que le patient peut être co-acteur, voire co-thérapeute. C'est-à-dire le sujet lui-même. Tout à l'heure, justement, ça rejoint un peu à la question précédente de la norme. C'est-à-dire le sujet sera lui-même en alerte par rapport à des situations à risque ou par rapport à des situations qui peuvent le mettre en danger. Donc, il se mettra lui-même en alerte et donc il pourra développer cette capacité, vous dites volution, moi je dirais d'anticipation par rapport à certaines situations dangereuses pour sa santé. Et je pense que dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient apprend ce qu'on appelle aujourd'hui dans le domaine de la santé, l'éducation à la santé. C'est-à-dire, il apprend des choses qu'il peut apprendre, hein, on ne lui demande pas d'être médecin, c'est-à-dire on lui demande d'être seulement acteur de sa santé et d'apprendre aussi des éléments concernant les maladies, comme on l'a vu sur, par exemple, le problème de la dentition pour éviter d'avoir des caries ou pour éviter justement d'avoir des problèmes soit d'hypertension, pour avoir des éviter d'avoir des problèmes de diabète, essayer de connaître en avant. Et ça, par des phénomènes d'apprentissage et des phénomènes d'éducation à la santé, on peut considérablement améliorer ce champ-là grâce au champ du numérique.
Merci. Avons-nous d'autres questions? C'est là-bas. Oui.
Bonjour. C'est bon, pardon. Je pensais plus à tout ce qui est non dit. Les patients qui sont acteurs de leur santé. Je pense à des maladies comme la bipolarité, qui, peut-être avec un cyberpsychologue, ne seront pas aussi facilement détectés ou mal diagnostiqués qu'avec quelqu'un qui, enfin, un humain. Je ne sais pas si je suis claire.
Non, disons, j'ai pas, parce que je pense que la question, je suis désolée, mais elle s'adresse au médecin. C'est-à-dire, vous voulez dire, est-ce qu'avec un cyberpsychologue, quelqu'un, comme par exemple dans le cas d'une maladie bipolaire, dira plus de choses qu'un vrai psychologue? C'est ça, c'est votre question? Le problème, c'est que je ne sais pas qui parle. Je ne vois pas qui parle.
Ah, voilà.
Où ça? Ah oui, voilà. Oui.
Un exemple d'un film.
Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre d'un cyberespace, il y a un effet de désinhibition important. C'est-à-dire, quand on a une personne en face, il y a, justement par rapport à ce que je disais dans le face-à-face, une réactivité qui fait quelquefois un effet d'inhibition sur certaines choses qu'on pourrait dire et qu'on ne dit pas. Voilà, c'est pour ça que souvent, chez un psychanalyste, vous le savez très bien, le fauteuil n'est pas en face à face, mais il est tourné.
Je vais sortir un peu du cadre médical pour faire une réponse du philosophe. Plutôt par rapport à la norme et à tout ce qui a été dit par rapport à la santé normale, santé, bonne santé, etc. Vous savez, la norme, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle provoque le désir de la transgresser. Et le problème psychologique, il est dans le mot désir. Parce que qu'est-ce que vous faites de ce désir? Vous le suivez ou pas? Qu'est-ce qu'il vous fait à vous psychologiquement, etc. Il y a beaucoup à dire sur le désir. Et souvent, celui qui transgresse cette norme amène avec lui toute l'humanité. Et du coup, ça redéfinit l'homme et la norme devient obsolète. Ce n'est plus le même humain. La norme ne s'applique absolument plus à cette nouvelle société ou à cette nouvelle, à ce humain nouveau. Et donc, je ne suis pas en train de vous appeler, même je fais partie des comités d'éthique qui disent oui, les normes, les valeurs, c'est très important. Je ne suis pas du tout en train de vous appeler de transgresser les normes tous les jours, surtout pas sur la route, mais pensez quand même à la norme, non pas comme quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais à ces transgressions et au désir psychologique de transgresser la norme comme finalement le moteur du progrès technologique aussi.
Alors, nous avons tous le désir de transgresser la norme temporelle, mais malheureusement, il y a d'autres gens derrière nous. Je vous rappelle que les auteurs qui étaient ici vont signer leur livre juste après la table ronde dans la librairie à côté. Je remercie tous les intervenants de la table ronde et le public pour son attention.